RFI Radio France Internationale, 8h à Paris, 10h à l'Atakim.
Andréane Mélard.
Et tout de suite, le journal. Alban Le Prince à la une. Près de 1000 civils alaouites massacrés dans l'ouest de la Syrie.
En 4 jours seulement, des violences auxquelles le président syrien par intérim promet de répondre. Yara, une alaouite dont le père a été tué, revient pour RFI sur les jours qui viennent de passer. Une semaine après le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire, Israël cesse de fournir de l'électricité à Gaza. Un nouveau moyen de pression sur le Hamas alors que des négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu débute aujourd'hui. Nous reviendrons également sur l'Arabie Saoudite, devenue médiatrice incontournable dans les conflits mondiaux du Proche-Orient à la guerre en Ukraine. C'est votre dossier dans ce journal. Et puis, passation de pouvoir prévue dans les prochains jours au Canada. Marc Carney vient d'être désigné pour remplacer Justin Trudeau, le Premier ministre, un ancien banquier qui compte bien faire entendre sa voix face à Donald Trump.
Ahmad al-Sharr, le président syrien par intérim, promet de poursuivre les responsables de l'effusion de sang des civils.
Depuis jeudi dernier, la Syrie est confrontée à des affrontements entre fidèles de l'ancien régime de Bachar al-Assad et nouvelles autorités. Dans les régions de Tartous et Latakié, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Plus de 1450 morts, dont 973 civils alaouites au moins, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces derniers jours, RFI a pu obtenir le témoignage de plusieurs habitants de la région, comme cet alaouite dont le père a été tué. Récit d'Oriane Verdier et Nicolas Falaise.
Elle s'appelle Yara, elle a 30 ans, elle est alaouite et vit dans un village de la côte syrienne. Le témoignage enregistré qu'elle nous a fait parvenir détaille avec précision les événements survenus jeudi et vendredi dernier. D'abord les rumeurs d'affrontements dans un village voisin, puis la visite de membres des forces de sécurité syriennes à la recherche de jeunes hommes du village. Le lendemain, vendredi 7 mars, des incendies sont allumés aux abords du village. Yara raconte l'arrivée d'assaillants armés. Nous avons vu des civils fuir et courir, craignant pour leur vie, dit-elle. Ils tuaient des gens de sang-froid, soit en les égorgeant, soit en leur tirant dessus. Tout le monde a été tué, y compris des jeunes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Parmi les victimes, le père de la jeune femme. Ils l'ont appelé, nous dit-elle, et lui ont dit de regarder la caméra, puis ils lui ont tiré dessus. Il n'est pas mort immédiatement, alors ils lui ont encore tiré dessus. Ils nous tuent simplement parce que nous sommes alaouites. Nous n'avons fait de mal à personne et nous n'avons pas d'armes. Yara explique que les assaillants ont ensuite rassemblé les femmes, sa mère, sa sœur, elle-même, mais que les hommes armés sont finalement repartis sans les tuer. Yara évoque son village après l'attaque. Plus de nourriture, plus d'eau, plus d'électricité. Nous ne pouvons pas enterrer nos morts, dit-elle. Elle conclut son témoignage par ces mots. Ils nous ont tués comme des insectes, comme si nous n'étions rien. Et ils rigolaient.
Des violences qui touchent aussi les chrétiens, selon le patriarche orthodoxe d'Antioche. L'administration autonome kurde de Syrie condamne pour sa part des pratiques qui ramènent à une époque noire que le peuple syrien ne veut pas revivre.
Toujours au Proche-Orient, Israël accentue la pression sur le Hamas.
Alors qu'une délégation israélienne est attendue aujourd'hui à Doha, au Qatar, pour négocier la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Et une semaine après avoir suspendu l'entrée de l'aide humanitaire, Israël a décidé hier de couper l'approvisionnement en électricité de l'enclave palestinienne, la seule ligne qui alimente notamment la principale usine de dessalement de l'eau. Une annonce qui n'a pas surpris les Gazaouis contactés par Amira Swilem depuis Jérusalem.
Avec sa connexion chancelante, Roulet, 20 ans, raconte que depuis la guerre, elle ne va plus en cours. À la place, elle passe son temps à sillonner l'enclave smartphone en main pour documenter la situation à Gaza. L'électricité, un casse-tête du quotidien pour elle.
À chaque fois que je veux charger mon téléphone, c'est la galère. Je suis obligée d'essayer de trouver quelqu'un qui puisse me le recharger grâce au panneau solaire. Pour cuisiner, on a recours à du bois. Et le linge, on le lave à la main parce qu'il n'y a ni machine à laver, ni électricité.
Fadi vit aussi à Gaza. Il est ingénieur de formation. Il a appris la décision israélienne sur les réseaux sociaux.
On a ri jaune en apprenant ça à Gaza parce que c'est depuis le 7 octobre 2023 que nous n'avons pas d'électricité ici. Sans électricité, il va être difficile de traiter les eaux usées. Et donc, les rues risquent d'être envahies par ces eaux contaminées. Cela peut avoir des conséquences sur l'environnement et dans la propagation de maladies.
La semaine dernière déjà, Israël avait décidé de stopper l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. En coupant l'électricité, les Israéliens espèrent faire davantage pression sur le Hamas, alors que des négociations reprennent aujourd'hui au Qatar. Amira Suilem, Jérusalem, RFI.
Négociations au Qatar, en Arabie Saoudite aussi, cette fois concernant la guerre en Ukraine.
Le président ukrainien doit y arriver aujourd'hui pour rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman à la veille d'une réunion entre responsables ukrainiens et américains. La première depuis la rencontre houleuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche et l'annonce du gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, alors que sur le front, Moscou progresse. Pour la première fois depuis 2022, la Russie a revendiqué hier une poussée dans la région de Soumy et la prise de 4 villages dans celle de Koursk. Le mois dernier, déjà, délégations américaines et russes se rencontraient à Riyad pour préparer le rapprochement entre Moscou et Washington. Bonjour Abla Jounaïdi.
Bonjour.
L'occasion de revenir avec vous sur le rôle de médiateur devenu quasi incontournable de l'Arabie Saoudite.
Oui, elle dispute le rôle de médiateur des crises à son voisin le Qatar, sans perdre de vue ses intérêts. Cette semaine, en Arabie Saoudite, vous l'avez dit, une délégation américaine doit s'entretenir avec des représentants ukrainiens sur les perspectives de cessez-le-feu avec la Russie. Pourquoi à Riyad ? Le politologue saoudien Ali Al-Anzi nous rafraîchit la mémoire.
Souvenez-vous, quand le prince Ben Salman était en visite en France il y a 2 ans, le président Macron lui a demandé sa médiation pour régler la crise russo-ukrainienne. Ce n'est pas une demande en l'air. Il connaît la position de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des deux camps.
Abla, Mohamed Ben Salman parle aussi bien à Vladimir Poutine qu'à Volodymyr Zelensky.
Oui, lorsque les sanctions occidentales sont adoptées contre la Russie et Vladimir Poutine après le déclenchement de sa guerre d'invasion, MBS ne coupe pas le contact avec le président russe. Il faut dire que comme lui, il a été mis au banc par l'administration Biden à cause de la guerre désastreuse du royaume au Yémen et de l'assassinat atroce du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Riyad, sans aller jusqu'à dénoncer l'invasion de l'Ukraine, a maintenu aussi le lien avec Kiev.
L'Arabie Saoudite travaille aussi au rapprochement entre Moscou et Washington.
La dernière rencontre Poutine-Trump remonte à 2018 en Finlande. La prochaine pourrait avoir lieu à Riyad cette année. L'Arabie Saoudite a joué un rôle actif dans le plus grand échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis depuis la guerre froide. C'était l'été dernier. Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Mohamed Ben Salman se trouve dans une meilleure posture pour jouer les entremetteurs. Il partage avec lui une même approche des relations internationales, toutes transactionnelles et qui assume le rapport de force.
Et en échange, que cherche l'Arabie Saoudite ?
L'objectif premier est économique. Riyad ne perd pas de vue que Washington espère une normalisation de ses relations avec Israël, l'autre grand allié des États-Unis dans la région. Mais depuis que Trump a proposé de vider Gaza de ses habitants, MBS ne veut plus normaliser ses relations avec Tel Aviv. De sa réhabilitation et son implication dans les dossiers les plus chauds, de l'Ukraine au Soudan en passant par Gaza, le Royaume tente, avec les autres pays arabes, de faire avancer un plan alternatif. Ce plan, discuté à Riyad le mois dernier, est pour le refuser par Israël comme le Hamas.
Merci Abla Jounaïdi.
RFI 8h08 à Paris, 3h08 à Ottawa au Canada, qui connaît depuis hier le nom du successeur de Justin Trudeau.
10 ans après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre a jeté l'éponge et son parti, lui, a choisi son remplaçant, Mark Carney, ancien dirigeant des banques centrales anglaises et canadiennes. Il s'est immédiatement posé en opposant à Donald Trump, le président américain qui a engagé un bras de fer commercial avec le Canada. Et s'il n'a pas d'expérience politique, sa maîtrise des enjeux économiques a su convaincre. La correspondance à Montréal pour RFI de Nafi Alibert.
New challenges demand new leadership.
Les nouveaux défis auxquels nous faisons face nécessitent un nouveau leadership. Mark Carney l'a martelé dans son discours de victoire, en anglais comme en français.
Les gens veulent le changement parce qu'ils sont inquiets.
Avec des promesses fortes sur la scène nationale, il annonce un renouveau économique en réduisant notamment les dépenses gouvernementales et en allégeant les impôts de la classe moyenne.
Il faut s'unir pour bâtir le pays le plus fort.
Un pays fort qui, il l'espère, pourrait émerger comme la plus forte économie du G7, mais aussi un Canada uni qui tient fermement sa place face à Donald Trump.
Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre territoire, notre pays. Nous sommes maîtres chez nous.
Un autre adversaire de taille l'attend, Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, qu'il devra affronter lors de la prochaine élection fédérale qui risque d'être déclenchée dans les prochaines semaines. Nafia Libert, Montréal, RFI.
Cette question à présent, Alban, la Corée du Nord va-t-elle rejoindre le très fermé club des pays disposant de sous-marins nucléaires?
Cela inquiète en tout cas, puisque le pays a dévoilé ce week-end et pour la première fois des images du sous-marin actuellement en construction, ce qui pourrait considérablement bousculer les rapports de force dans la région. Les explications à Séoul de Célio Fioretti.
Sur les photos du chantier prises par les médias nord-coréens, Kim Jong-un apparaît tout sourire face à l'imposant navire. Entre 6 et 7 000 tonnes, d'après les estimations, ce sous-marin nucléaire pourrait emporter avec lui près de 10 missiles équipés de charges atomiques. Le régime nord-coréen n'a donné aucun détail concernant ce navire, mais l'acquisition d'un sous-marin nucléaire est un projet de longue date pour la Corée du Nord. Le régime possède déjà entre 70 et 90 sous-marins classiques. Le développement d'un sous-marin nucléaire lui permettrait une force de frappe plus importante et un déploiement plus au large. Kim Jong-un a justement indiqué que le lancement du sous-marin d'ici 1 à 2 ans ne se limiterait pas aux eaux territoriales nord-coréennes. Pour Séoul et Washington, il s'agit désormais d'anticiper ce nouveau rapport de force et de comprendre quelle aide le régime a-t-il obtenue pour développer ce sous-marin. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Et alors que la Corée du Sud et les États-Unis entament aujourd'hui leur grand exercice militaire conjoint annuel, l'armée sud-coréenne affirme que la Corée du Nord a tiré ce matin plusieurs missiles balistiques non identifiés.
3 jours de deuil national décrété en Argentine.
Après les inondations meurtrières qui ont frappé Bahia Blanca dans le centre du pays, dans la ville, il est tombé en quelques heures 400 litres d'eau par mètre carré, l'équivalent d'un an de pluie. Le bilan est lourd, au moins 16 morts, une centaine de personnes portées disparues. Selon les autorités locales, le maire de Bahia Blanca estime de son côté le montant des dégâts à 370 millions d'euros.
Retour en France avec l'ouverture aujourd'hui d'un procès historique, l'accusé, l'éducation nationale.
Et c'est une première, puisqu'une enseignante est jugée pour harcèlement moral sur l'une de ses élèves, Evaël, 11 ans, victime comme d'autres enfants des humiliations répétées de la part de sa professeure. Elle s'est donné la mort en 2019. Maître Delphine Meillet est l'avocate des parents de la collégienne.
Elle n'a pas été suffisamment prise en charge et ce n'est pas moi qui le dis, mais le ministère de l'Éducation nationale qui a reconnu partiellement sa responsabilité en disant « Effectivement, nous n'avons pas su suffisamment prendre en considération le harcèlement dont était victime Evaël. » Et quand il parle de harcèlement, il parle de harcèlement des élèves et du harcèlement de la professeure. Il y a une défaillance de l'administration et elles sont nombreuses et structurelles. Il y a un manque de sensibilité à cette époque, à ces sujets. Il y a un esprit de corps qui pousse les personnels et enseignants et pédagogiques et administratifs à faire bloc contre les parents. Et il y a un manque de suivi des procédures de lutte contre le harcèlement qui était en fait un pis-aller, c'est-à-dire qu'on prétendait les initier, mais il n'y avait aucun suivi. On est dans une administration où il y a plus de 1 million de personnes qui interviennent. Il est inévitable d'avoir quelques individus qui se comportent mal ou qui ne sont pas à leur place. Il est impératif de les sanctionner quand ils font des fautes, mais ça ne suffira pas à empêcher qu'un tel drame ne se reproduise. Il faut comprendre toute la chaîne de causalité qui a tué Evaël.
Des propos recueillis par Baptiste Coulon.
2 morts, plus de 200 cas et une couverture vaccinale contre la rougeole en chute libre aux États-Unis.
En particulier depuis l'épidémie de Covid il y a 5 ans et la vague de désinformation et de méfiance vis-à-vis des vaccins. La nomination au ministère de la Santé de l'antivax Robert Kennedy Jr. n'a pas aidé, même s'il a revu récemment sa position sur le sujet. Les autorités sanitaires américaines s'apprêtent même à relancer une étude sur un présumé lien entre vaccination et autisme, Simon Rosé.
Le Centre de contrôle américain des maladies, le CDC, l'a déjà démontré et a publié plusieurs études sur le sujet. La vaccination ne favorise pas l'autisme. C'est pourtant ce même CDC qui va enquêter à nouveau sur le sujet à la demande du ministère de la Santé, ministère dirigé désormais par Robert Kennedy Jr., opposition anti-vaccination revendiquée. Une annonce qui désespère la communauté médicale qui fait face à une importante épidémie de rougeole au Texas et au Nouveau-Mexique, en raison notamment de la faible couverture vaccinale. La Fondation scientifique sur l'autisme s'en émeut également, Alison Singer, sa présidente.
Le simple fait que le gouvernement ressente le besoin de mener cette étude est dommageable. Cela va instiller le doute, en particulier chez les nouveaux parents, qui peuvent ne pas être au courant du consensus scientifique. Des parents renonceront à la vaccination et à la fin, des enfants mourront.
Donald Trump lui-même a répété à plusieurs reprises l'assertion fausse du lien entre vaccination et autisme. La communauté médicale explique quant à elle l'augmentation du nombre de cas d'autisme aux États-Unis par une meilleure connaissance de la maladie et des outils de diagnostic plus efficaces.
Simon Rosé.
Merci Alban Leprince, c'était le journal sur RFI. Il est 8h15 à Paris, dans un quart d'heure l'information africaine et juste après ce sera le journal des sports. On va parler foot avec Antoine Grenier. Avant ça, dossier à suivre sur RFI consacré au centre d'escroquerie en Asie, de véritables camps de prisonniers où les pensionnaires mènent des arnaques en ligne sous peine de violence. Témoignage à suivre, nous appellerons aussi Valentin Sébron à Bangkok. Avant ça, on jette ensemble un œil sur la presse internationale. Et avec vous, Frédéric Couteau, à la une, le spectre de la guerre civile en Syrie.
Ali est alaouite, raconte Lorient Le Jour à Beyrouth. Originaire de Meysaf, il vit et travaille au Liban depuis plus de 10 ans. Lorsque le régime Assad est tombé le 8 décembre dernier, il fut pris de panique, non pas en raison de l'affection qu'il portait à un clan qui ne lui a jamais rien donné, comme à la grande majorité des alaouites, non, mais parce que depuis sa naissance, on lui explique que les sunnites veulent sa peau et qu'il a peur, à l'instar du reste de sa communauté, à la fois de tout perdre et d'être associé à l'ancien pouvoir. Aux yeux de la majorité sunnite, les alaouites en effet ont participé pendant des décennies, et en particulier durant la dernière, à la répression et au massacre. Alors, au mieux, ils se sont tus, alors ils sont coupables. Jeudi dernier, alors qu'on commençait à compter les morts dans la région de Latakia, dans le nord de la Syrie, Ali a affirmé, rapporte encore Lorient Le Jour, la guerre civile a commencé, peut-être était-ce exagéré, relève le quotidien libanais, mais ce qui s'est passé lors de ces derniers jours est beaucoup plus qu'une tache d'ombre sur le nouveau pouvoir syrien. Ce qui s'est passé, précise Lorient Le Jour, c'est qu'à la suite d'une insurrection menée par des factions armées pro-Assad, de violents combats ont éclaté, des centaines de civils alaouites ont été massacrés, et quoi que l'on pense des reliques du assadisme et de ses soutiens étrangers, ce dernier élément devrait prendre le pas sur tout le reste. Si un tel massacre avait été commis sous le règne de Bachar, nous n'aurions pas eu de mots assez durs pour le condamner. Il n'y a aucune raison, conclut le quotidien libanais, d'en faire autrement aujourd'hui.
Pour le franco-syrien Agathe Ghanem, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, spécialiste des alaouites, interrogé par Libération à Paris, on observe la montée d'une polarisation confessionnelle dans le pays.
Oui, une polarisation aussi vif que dans les pires moments de la guerre civile au cours de laquelle le régime d'Assad a instrumentalisé l'identité dans sa répression ultra-violente. La confessionnalisation du conflit aujourd'hui est très inquiétante, prévient encore le chercheur franco-syrien. On sort de 14 ans de guerre civile et de 54 ans de dictature, un contexte évidemment très sensible, mais davantage aurait pu être fait par ce nouveau pouvoir pour assurer plus d'inclusion. On n'a toujours pas de gouvernement qui doit représenter en principe toute la diversité de la Syrie. La conférence de dialogue national n'a duré qu'une journée, ce qui est très peu au vu des centaines de milliers de morts de la guerre civile. Qui plus est, le nouveau pouvoir a également peiné à ouvrir un dialogue avec les alaouites.
Pour La Croix, à Paris, ce déchaînement de violence vient entacher l'action des nouveaux dirigeants syriens issus du groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham.
Après leur prise de pouvoir, ils s'étaient rapidement attachés à donner des gages de modération et de tolérance, promettant de garantir les droits de tous les peuples et de toutes les confessions en Syrie. Les faits récents viennent balayer ces déclarations d'intention, relève le quotidien catholique. Le dirigeant Ahmed al-Shara a appelé hier à l'unité nationale. S'il veut réellement diriger la Syrie tout entière et unifier un territoire qui compte de nombreuses minorités ethniques et religieuses, dont des chrétiens, et reconstruire un pays détruit par des années de guerre, c'est à son gouvernement d'y veiller. Si le pouvoir actuel n'arrive pas à mettre fin aux tensions entre communautés, ou pire encore, les encourage, alors, prévient La Croix, alors son action est vouée à l'échec. La paix ne pourra être atteinte que dans le respect de la diversité.
Enfin, attention, prévient pour sa part Haaretz à Tel Aviv.
Oui, la Syrie pourrait se retrouver dans la même situation que l'Irak après la chute de Saddam Hussein, où les survivants de son armée avaient formé des unités séparatistes qui avaient rejoint Al-Qaïda et d'autres forces sunnites. Cette situation a engendré une guerre civile sanglante, au plus fort de laquelle Daesh avait les mains libres pour s'emparer de certaines parties du pays. Il semble que le nouveau régime syrien éprouve des difficultés à contrôler toutes les milices opérant dans le pays, pointe encore Haaretz, y compris ses anciens alliés de la révolution qui a renversé Assad en décembre dernier. Et les alaouites sont pris au piège dans ce réseau de tensions et de menaces sectaires.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. Merci beaucoup à vous, RFI. Il est 13h49 à Rangoon. Leur nombre n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Les arnaques en ligne génèrent des milliards de dollars. Et en Asie, c'est un vrai business dans de véritables complexes, des centres d'escroquerie basés notamment en Birmanie, au Cambodge ou encore au Laos. Des milliers de personnes sont exploitées pour réaliser ces arnaques via notamment les réseaux sociaux. C'est le cas de Su, attiré sous un faux prétexte près de la frontière birmane, puis emmené de force dans un centre d'escroquerie. Il a réchappé à ce réseau, rescapé de ce système. Il témoigne sur notre antenne. Cléa Broderst et Xi Xiangwan, ont discuté avec lui.
Une fois arrivé dans le centre, Su explique qu'il travaillait sans arrêt tous les jours de 10h30 à 2h du matin et que tout était étroitement contrôlé.
Chaque personne recevait un ordinateur et quatre téléphones Apple équipés de cartes SIM birmane, tous d'occasion. Là, on créait des comptes Gmail, puis Facebook, Instagram. On gérait 20 comptes chacun. Il y avait 14 équipes et projets de fraude. L'équipe dont je faisais partie se concentrait sur la crypto-monnaie. Des personnes pouvaient transférer leur monnaie locale sur la plateforme d'échange OKX, qui est reconnue internationalement, sauf en Chine continentale, où elle n'est pas autorisée. Après avoir transféré de l'argent, elle pouvait utiliser des dollars américains pour acheter des crypto-monnaies. L'objectif ultime restait de guider le client dans son investissement. Il n'y avait pas de script fixe, juste quelques tactiques générales.
Su raconte que de nombreux Chinois étaient enfermés dans ces camps et que le flot d'arrivées ne cessait jamais. Tous les jours, dit-il, on venait sélectionner certains individus.
Si vous n'étiez pas choisi dans les 30 jours, ils vous emmenaient dehors dans un véhicule à Miawadi ou la frontière thaïlandaise pour se faire prélever les organes. Deux reins pouvaient se vendre 500 000 yuans. Si vous étiez jugé qualifié, ils vous exploitaient au maximum. Si vous n'étiez pas sélectionné, ils vous forçaient à déverrouiller votre téléphone en scannant votre visage. Ils chargeaient votre téléphone, le connectaient au Wi-Fi et utilisaient votre visage pour accéder à des applications chinoises telles que WeChat, Alipay et des cartes bancaires pour transférer le plus d'argent possible.
Ceux qui résistaient étaient sévèrement punis, raconte-t-il.
Le premier jour, les gardes ont tiré sur 11 personnes dans la cour. 4 sont mortes sur le coup, les 7 autres étaient encore en vie. Là, ils ont trouvé une autre victime qui prétendait être vétérinaire en Chine continentale et lui ont demandé d'extraire les balles sur leur corps. Le processus était diffusé en direct sur Telegram. Ils nous montraient aussi des vidéos d'autres centres d'escroquerie pour nous montrer des gens se faire punir. Ils utilisaient de l'eau bouillante pour la verser sur les orteils de quelqu'un, puis pliaient les articulations en arrière. Et tout était diffusé en direct via des comptes Telegram et WeChat. Ils utilisent cela comme une forme d'intimidation, en particulier ceux qui viennent d'être vendus. C'est une façon de donner l'exemple, à la fois pour les personnes sur place et pour les autres qui participent à différentes opérations frauduleuses et qui regardent la diffusion en direct. C'est ce genre de choses qui fait que les gens craquent complètement après y avoir passé un certain temps.
La famille de Su a réussi à négocier son retour en Chine après avoir en tout payé près d'1 million de yuan, soit près de 130 000 euros. Cléa Broderst, Shenzhen Yuan, Pékin. RFI.
Et pour tenter de démanteler ces réseaux, une coopération se met en place, coopération qui s'opère notamment entre les autorités thaïlandaises et chinoises. Pékin a déjà rapatrié plusieurs centaines de ses ressortissants impliqués de gré ou de force dans ces réseaux criminels transnationaux. On en parle ce matin avec notre correspondant à Bangkok, Valentin Sébron. Bonjour Valentin.
Bonjour, bonjour à tous.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Valentin, où en est le rapatriement de ces ressortissants chinois ?
Écoutez, hier encore, la télé thaïlandaise a diffusé les images d'un groupe de 150 individus embarqués sur un vol à destination de Nanjing, en Chine. Ils font partie des 1500 Chinois que Pékin a rapatriés la semaine dernière via la Thaïlande. Depuis fin février, des avions affrétés par Pékin, transportant des ressortissants chinois, décollent presque tous les jours de Mae Sot, ville frontière thaïlandaise à l'ouest du royaume. Car avant d'être libérés, beaucoup étaient retenus juste en face, côté birman, à Miawadi. C'est là que des centres de cyberarnaque tenus par des groupes criminels chinois, profitant du chaos de la guerre, ont proliféré ces dernières années avec la connivence de la dictature militaire en Birmanie.
D'ailleurs, sur les 10 000 individus récemment libérés de ces centres de cyberfraude par une milice birmane alliée à la junte birmane sous la pression de Pékin, tous ne sont pas des ressortissants chinois.
Tout à fait, même si une grande majorité d'entre eux sont de nationalité chinoise. Il y a aussi des Vietnamiens, Indiens, Éthiopiens, Pakistanais, Kenyans, Malaisiens. Beaucoup ont été bernés par une fausse offre d'emploi avant d'être détenus puis forcés d'arnaquer des inconnus sur les réseaux sociaux à longueur de journée, sous peine d'être battus, torturés, voire pire. en fait, des deux côtés de l'écran. Les victimes viennent du monde entier.
Et en ce moment, Valentin, 7000 rescapés étrangers de ces camps de travail forcés en Birmanie attendent toujours d'être rapatriés.
Oui, ils sont entassés dans des campements surpeuplés côté birman, administrés par une milice armée. Des conditions insalubres qui inquiètent les ONG. Bangkok, de son côté, a déclaré être en lien avec les pays de ses ressortissants étrangers pour accélérer leur rapatriement. La Thaïlande, qui a longtemps toléré l'existence de ces centres d'arnaque en ligne de l'autre côté de sa frontière avant de réagir tardivement, est aujourd'hui mise à rude épreuve. De l'autre côté du pays, à l'est, les autorités thaïlandaises ont évoqué la possibilité d'ériger un mur à la frontière avec le Cambodge, où cette industrie criminelle sans pitié est également bien implantée. Il y a quelques jours, une gamine thaïlandaise de 14 ans a été secourue d'un centre de cyberarnaque cambodgien.
Valentin Sebron, correspondant de RFI à Bangkok, en direct avec nous ce matin. Merci Valentin.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Et c'est l'une des nombreuses et l'une des premières décisions prises par l'administration Trump, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, un texte qui engage la plupart des pays du monde à limiter le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, voire 1 degré et demi, un retrait qui pourrait en entraîner d'autres. D'autres pays menacent de quitter cet accord de Paris. Alors lesquels et avec quelles conséquences? C'est ce qu'on va voir ce matin dans notre question d'environnement. Jeanne Richard, d'abord, précisons que le retrait américain était déjà une très mauvaise nouvelle dans la lutte contre le changement climatique.
Oui, les États-Unis sont le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, le premier responsable et historique du changement climatique. Donc, sans leur participation à l'effort collectif, c'est sûr qu'il sera bien plus difficile de limiter la hausse des températures mondiales et les catastrophes qui en découlent. Et avec ce retrait, c'est aussi l'aide financière climatique pour les pays du Sud qui est remise en question. Les États-Unis viennent d'ailleurs de quitter le partenariat de transition énergétique avec l'Afrique du Sud et l'Indonésie.
Et d'ailleurs, l'Indonésie envisage de quitter à son tour l'accord de Paris.
Oui, ça n'est pas officiel, pas encore du moins, mais plusieurs dirigeants évoquent cette possibilité. Ils présentent désormais l'accord de Paris comme une contrainte pour le développement du pays, car il faudrait arrêter la production de pétrole et le déboisement à tout va pour planter des palmiers à huile et fermer les centrales à charbon polluantes. Alors, sans la contrepartie, c'est-à-dire sans l'argent américain pour aider à la transition, le pays est face à un dilemme, selon les autorités, qui en profitent pour mettre la pression sur les autres pays riches pour qu'ils débloquent des fonds plus vite. Alvaro Artigas est chercheur associé à Sciences Po.
C'est lié d'abord à un projet de développement économique. Et finalement, vous avez un dernier point qui est essentiel. C'est-à-dire, c'est pas les pays émergents qui ont creusé en fait ce trou climatique. C'est pas les pays émergents qui sont responsables de ces questions climatiques. Et par conséquent, c'est pas à nous de faire les efforts. Et c'est pas nous qui allons faire les efforts si les États-Unis en plus abandonnent les accords.
Et Jeanne, un autre grand pays envisage de quitter l'accord de Paris, c'est l'Argentine.
Oui, le porte-parole du président a annoncé début février qu'une éventuelle sortie de l'accord de Paris était en cours d'évaluation. Le président Javier Milei est climato-sceptique. Sur la même ligne que Donald Trump, il veut ignorer les preuves scientifiques et s'affranchir des organisations internationales. Quand bien même, lutter contre le changement climatique est une question de survie. Alors, dans les faits, quitter l'accord de Paris serait assez compliqué pour l'Argentine, qui risquerait de se couper de ses partenaires économiques qui tiennent à cet accord, l'Europe et le Brésil notamment, qui organisent la COP cette année. Et puis en interne, il faudrait au président l'aval du Parlement, ce qui n'est pas gagné.
Et Jeanne, les conséquences de ces possibles retraits seraient très graves pour le climat.
L'Indonésie est quand même maintenant le 7e émetteur de gaz à effet de serre au monde. L'Argentine est un géant agro-industriel, un secteur très polluant. S'ils quittent l'accord de Paris, on peut imaginer que leurs émissions de gaz à effet de serre augmentent sans frein. Et puis, cela pourrait inciter encore d'autres États à leur emboîter le pas. En tout cas, on le voit, la question des aides financières internationales et les échanges économiques pèsent plus que jamais sur l'engagement climatique des pays.
Jeanne Richard pour notre question d'environnement, comme chaque matin sur RFI. Toutes nos questions d'environnement à retrouver, bien sûr, sur notre site www.rfi.fr. Vous restez bien avec nous. Dans une minute, le retour de l'information africaine. On se retrouve juste après à 8h42, heure de Paris, pour le journal des sports. Ce sera avec Antoine Grenier et du football. À la une, belle journée sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.
Pascal Paradou.
Sur la façade du Panthéon à Paris, des écrans et des mots projetés, des mots susurrés. Ceux d'Aimé Césaire, de Marie Curie, de Montaigne, dans toutes les langues. L'artiste Nicolas Frise a conçu une installation sonore et visuelle pour célébrer le quart d'heure de lecture nationale.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Bonjour, je suis Dougal Kemp. J'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière. Et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée. C'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix. En partenariat avec l'INA, Adobe et Aprime Publishing.